Bonjour tout le monde, ici Eugénie Francoeur, ex-journaliste, directrice générale d'une petite fondation et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit sur la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Je vous souhaite la bienvenue sur la balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers cette balado, c'est de vous partager ce qui m'allume en espérant que ça puisse aussi vous faire du bien à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que ma croyance et mon enthousiasme se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Allô tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». C'est un bonheur de vous retrouver. Je tiens dans mes mains un livre pour lequel j'ai eu un coup de foudre. La saison des légumes, profiter des récoltes de juin à novembre et manger local à l'année, écrit par Marie-Ève Savaria. Pour celles et ceux qui écoutent ces balados régulièrement, vous savez déjà que je suis une grande fan inconditionnelle de légumes. Le matin, le midi, le soir et en collation, je suis toujours partante pour des légumes. Les légumes sont aussi le point rassembleur d'à peu près toutes les façons de se nourrir. Du végétarisme au cétogène, en passant par le régime ancestral, on réserve une belle place aux légumes dans l'assiette. Source de multiples micronutriments, vitamines et minéraux, les légumes sont versatiles, polyvalents et ils sont une source infinie de créativité. Ils débordent de couleurs et de vie. Ils se savourent autant crus que cuits pour plusieurs variétés. Ils sont aussi beaux à regarder qu'à goûter. Pour en parler, j'ai le bonheur de recevoir l'autrice de cette Bible des légumes, Marie-Ève Savaria. Elle aussi est une grande amoureuse des légumes. Marie-Ève vit une grande histoire d'amour avec les végétaux depuis qu'elle est toute jeune. Aller au jardin, se connecter à la terre pour observer ce qui y pousse, ce qui est prêt, puis le récolter pour le cuisiner, est l'activité qui lui procure le plus de joie au monde. Marie-Ève a travaillé comme intervenante en sécurité alimentaire auprès de femmes immigrantes. Maintenant maman de 2 enfants et bientôt de 3, elle partage avec générosité ses grandes connaissances. Elle souhaite plus que jamais motiver les humains à se reconnecter avec leur alimentation, à retrouver le plaisir de cuisiner les arrivages et l'abondance, toujours avec simplicité et ainsi manger un peu plus dans le respect et la proximité. Allô Marie-Ève, merci d'avoir accepté mon invitation.
Ben, merci à toi Eugénie, ça me fait vraiment plaisir.
J'ai dans les mains ton magnifique livre « La saison des légumes, profiter des récoltes de juin à novembre et manger local à l'année ». Je dois dire que moi je suis une très grande amoureuse de légumes. Je dirais que 70% de ce que je mange matin, midi, soir et à l'année, c'est toujours des légumes. Fait que c'est sûr que ça, c'est venu faire vibrer ma corde légumes en moi. Est-ce que tu pourrais me dire d'où t'es venue l'idée? Pourquoi t'as senti le besoin d'écrire un livre comme celui-là? Après ça, on va en parler un peu plus de ce qu'il y a dedans.
Comment c'est venu? Ça faisait très longtemps. Je te dirais que ça faisait peut-être 5 ans que l'idée d'écrire un livre était là. J'avais l'impression de porter un bébé, là. C'est comme j'étais en gestation, puis étant la conjointe d'un maraîcher, ayant plusieurs partenaires qui étaient abonnés à des paniers bio, j'ai vraiment senti le besoin de soutenir ces gens-là, tu sais, parce que pendant 18 semaines, quand tu es abonné à un panier, ben tu reçois une diversité de légumes, tu reçois beaucoup de légumes, et puis souvent, ben les gens, ils ont pas l'habitude, tu sais, on dit oui, manger des légumes, mais quand tu reçois ton panier, puis pendant 18 semaines consécutives comme ça, une grande abondance, ça peut être angoissant, ça peut être stressant pour certaines personnes qui ont peut-être peur de perdre ou tu sais. Fait qu'il y avait beaucoup de ça dans le fait d'écrire un livre pour justement soutenir, je parle des partenaires des paniers bio, mais n'importe qui a un jardin ou n'importe qui s'alimente en saison. Parce que bon, la saison des légumes, c'est le titre du livre. Au Québec, c'est de juin à, disons, novembre. Moi, je considère que c'est cette saison-là où est-ce que Il y a une période où il y a des maraîchers qui produisent des légumes au Québec parce que la température le permet. Donc, pendant cette période-là, même si t'es pas abonné à un panier, mais tu sais, il y a une abondance de végétaux disponibles, puis il faut en profiter. T'sais, il faut savoir quoi faire avec, puis idéalement, il faut se faire des réserves pour être capable d'en profiter le plus longtemps possible hors saison. Alors, je dirais que c'est vraiment ce qui a fait naître ce livre-là. C'est cette intention-là de soutenir les gens qui voulaient manger plus de légumes en saison.
Ton amour des légumes ou de la terre ou de manger santé, ça ne date pas de ce livre-là, puis ça ne date pas non plus de la rencontre avec ton maraîcher amoureux. Bien avant ça, ton histoire personnelle, ça fait longtemps que tu t'intéresses au bien manger puis à partager ces connaissances-là. Tu peux-tu nous glisser quelques mots de ton parcours auparavant?
Oui, j'ai 45 ans, puis ça fait au moins, ben c'est ça, quand je suis partie de chez mes parents à 20 ans, là, il y a eu comme un grand déclic de manger mieux, de prendre soin de moi, d'explorer l'alimentation, tout ça. T'sais, je dirais que depuis que j'ai 20 ans, c'est sûr, puis aussi pour revenir même avant ça, mes grands-parents avaient un jardin, mes parents avaient un jardin. J'aimais ça aller dans le jardin, j'aimais ça aller regarder, j'aimais ça aller sentir, j'aimais ça aller explorer. Mes parents, c'est pas qu'est-ce qu'on mange, on n'ouvrait pas un livre de recettes ou on allait dans le jardin, puis on regardait ce qui était prêt, puis c'est comme ça qu'on construisait notre repas. Fait que j'ai toujours comme été habituée à fonctionner comme ça. Puis quand je suis partie en appartement, ben j'ai comme, tu sais, étant autonome maintenant, j'ai comme décidé de vraiment mettre ça en pratique encore plus. Puis je sentais vraiment que c'était quelque chose qui était profond à l'intérieur de moi. Puis tout mon parcours après, tu sais, ayant trouvé ça, tout mon parcours après, on dirait que ça a suivi ça. J'ai étudié en diététique. Bon, la diététique, ça me sert pas tellement dans le sens que c'est pas là que je me suis rapprochée du jardin. Au contraire, je m'en suis éloignée. Tu sais, c'était plus plus chimique, plus les aliments transformés aussi. Fait que ça, j'ai moins théorique, c'est ça. Mais en même temps, c'est correct. J'ai appris quand même beaucoup à travers ça. Mais je peux pas dire que je m'en sers nécessairement. Après, j'ai fait ma diététique. J'ai enseigné à des femmes immigrantes dans des organismes communautaires, la cuisine, la nutrition. Ça a été tellement riche là, d'échanger avec des femmes de toutes sortes de pays, de cuisiner avec elles, de me rendre compte à quel point elles avaient tellement de connaissances, tu sais. Alors, c'était des beaux échanges avec ces femmes-là. Puis après, c'est ça, j'ai rencontré Francis. Je suis déménagée à la campagne. Puis lui, ça faisait déjà 7-8 ans, tu sais, qui faisait du maraîchage. Fait que je me suis jointe à lui. Puis on a poursuivi le chemin de la culture de végétaux. Puis fait que j'ai toujours, tu sais, là j'ai l'impression de revenir à quand j'étais petite. Tu sais, j'ai encore le pied dans le jardin. Puis ma grande, tu sais, où est-ce que j'ai le plus de satisfaction, c'est quand je, tu sais, au printemps, là, on sent que ça se réveille. Hier, il faisait un soleil magnifique. Même s'il fait froid, on sent que la terre se réveille. Là, il y a quelque chose, le soleil est plus fort. Puis même s'il y a de la neige, on sent qu'en dessous, ça bouille. Là, il y a de quoi qui veut sortir. Puis, tu sais, moi, c'est là aussi, là, j'ai l'impression je me réveille moi aussi. Puis j'ai juste hâte de voir les premières pousses. Tu sais, les premières, mon trip, c'est d'aller dehors au jardin, voir qu'est-ce qui va sortir en premier, puis de le cuisiner. Tu sais, fait que c'est là où est-ce que j'ai le plus de fun, à partir du champ, puis de ramener ça chez nous, puis de préparer ça.
C'est puissant, c'est gratifiant, ce lien-là avec la terre, puis avec ce qu'on mange, la façon dont on a de se nourrir, c'est comme ça. Quand on mange comme ça, j'ai l'impression qu'on est au bon endroit, tu sais, qu'on est en, comment je peux dire, en harmonie avec la terre.
Complètement, puis tu sais, c'est un de mes grands souhaits. Tu sais, là, j'ai écrit le livre, puis après, je me disais, OK, puis là, quoi? Puis là, il y a un grand désir de justement transmettre ça. Je sais pas de quelle façon, mais de rapprocher les gens de la terre. Tu sais, on le dit souvent que c'est important d'aller dans le jardin, d'aller dehors, tout ça. Mais c'est quand on va dans le jardin c'est comme si tous nos sens se réveillent, puis à force de développer cette habitude-là, ben c'est comme si notre corps nous disait quoi manger. Tu sais, il y avait comme, on était attiré vers certains aliments, certaines couleurs, certaines odeurs. Puis c'est très organique là, dans, mais ça se développe à force de, tu sais, mais ton, c'est pour ça que le corps te dit qu'est-ce qu'il y a de besoin de manger. Il y a comme un, c'est ça, c'est comme si on savait. J'aimerais beaucoup développer ça chez les gens. T'sais, c'est comme, c'est encore flou, mais je me dis, mon Dieu, que quand les gens se rapprochent de la terre, va dans la forêt, tu sais, cueillir, ça fait tellement bien, puis ça nous, il y a quelque chose qui devient justement naturel, puis il y a quasiment quelque chose qui devient sacré. Tu sais, il y a quelque chose qui, il y a une connexion, tu sais, vraiment avec la terre qui est tellement généreuse. C'est quand on parle d'abondance, là c'est là que tu le vois, tu sais, comment la terre est généreuse, comment la terre est abondante, comment elle donne ce que tu as de besoin quand t'en as de besoin. C'est fascinant de voir qu'il y a des gens qui se demandent, tu sais, qui vont vers d'autres personnes, dites-moi quoi manger, tu sais, dites-moi quoi manger. C'est triste là quand tu t'as complètement perdu cette connexion là. Pourtant c'est là, tu sais, fait que c'est ça. Il y a beaucoup de travail à faire, mais pour juste de sortir dehors, tu sais, amener. Mais il y a les enfants aussi. Moi j'ai des jeunes enfants, puis souvent les parents me disent, comment tu fais pour faire manger des légumes aux enfants? Mes enfants veulent rien savoir. Amène-les dans le champ. Tu sais, amène-les dans le champ, puis tu vas voir comment les enfants vont, tu sais, comme des poules, vont picorer partout, vont prendre une carotte, vont prendre des petites tomates cerises, vont se prendre une feuille de kale, tu sais, puis vont manger. C'est ça. T'sais, les enfants, c'est des beaux modèles parce qu'ils sont, tu sais, il y a quelque chose de pur, puis ils sont attirés. Fait que c'est de retrouver ça aussi quand on mange, là, cette espèce de plaisir, de joie, tu sais, d'aller vers la vie, tu sais, parce que c'est ça, le jardin aussi, c'est d'aller vers la vie.
C'est beau la connexion que tu fais, parce que dans plusieurs médecines ancestrales, j'ai entendu dire que ce dont notre corps a besoin, on le trouve dans un périphérique, dans 400 mètres autour de nous. Fait que, tu sais, c'est, oui, la nature, la vie nous donne ce qu'on a besoin au moment où on
Ah oui, complètement. Puis on parle beaucoup, tu sais, de, moi, je soutiens beaucoup l'alimentation locale et de proximité. Ça revient à ce que tu dis, tu sais, c'est ça, c'est comme, c'est sûr que plus c'est loin, moins tu peux ressentir cette connexion-là, puis moins, tu sais, je suis pas souvent attirée vers des ananas, là, pas souvent attirée vers des avocats, parce que c'est ça, c'est juste pas là, puis ça me, c'est oui, je suis capable d'apprécier, oui, c'est bon, un ananas frais, mais tu sais, je vais l'apprécier si je vais dans le pays où ça pousse, puis là, on dirait que je vais me reconnecter, ça va faire comme ici, là, je vais aller dans la jungle. Quand je suis allée au Costa Rica, tu sais, j'allais dans la jungle, j'allais déterrer mon curcuma, puis là, mon besoin de curcuma était comme, ok, il faut que je mange du curcuma. J'étais comme obsédée par je l'ai mangé, tu sais, mais rendu au Québec, le curcuma, tu sais, bon, non, là, l'hiver un peu, je me fais des... Mais c'est ça, tu sais, c'est ça, c'est de redécouvrir son terroir, mais de le marcher, tu sais, d'être dessus, de le sentir, de le vivre, de le... avec ses sens, avec ses tripes.
Je me demandais comment tu t'y es pris pour structurer ton livre, parce que c'est vraiment une mine d'informations. On apprend qu'on peut manger à peu près toutes les parties des légumes, les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs, les fruits. Tu nous donnes plein de trucs pour les consommer en saison. Tu nous donnes plein de trucs pour les consommer hors saison. Je suis curieuse de savoir comment t'as organisé ça pour que ça devienne cette magnifique bible de référence.
C'est drôle parce que c'est souvent le qualificatif qu'on lui donne, une petite bible. Alors ça me touche. Comment je m'y suis pris? Ben c'est à force d'être dedans, qu'est-ce que tu veux, tu sais, c'est mes 25 ans derrière la cravate, peut-être d'être dans le jardin, puis de les préparer, puis d'essayer toujours de faire des liens, tu sais, puis peut-être aussi mon bagage, j'ai beaucoup enseigné à monsieur, madame, tout le monde, tu sais, justement les bases de la cuisine, puis de, avec toujours le souci de rendre ça le plus simple possible, puis comme il y a beaucoup de légumes. Puis il y a beaucoup de, tu sais, quand je pense à notre ferme, entre autres, on diversifie énormément ce qu'on offre aux partenaires ou au marché. Puis cette diversité-là, ou même quand je parlais au début du panier, tu sais, cette diversité-là, elle peut faire peur. Fait que de dire à quelqu'un, par exemple, tu sais, quand dans son panier, il reçoit de la Mizuna, ce gros point d'interrogation, qu'est-ce que je fais avec ça, de la Mizuna, ou tu sais, du chou-rave, qu'est-ce que je fais avec ça, du chou-rave, ou... Fait que c'était d'essayer de en divisant le livre par famille botanique de légumes, c'est-à-dire qu'en partant des plantes qui sont d'une même famille, on réalise que c'est même en étant dans la même famille, elles vont nécessairement bien s'agencer ensemble ou elles vont bien pouvoir se... Qu'est-ce que c'est le mot? Se...
Complémenter?
Pas complémenter, mais tu sais quand tu veux substituer. Donc, elles vont très, très bien se substituer. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais dans la famille de l'amarante et de chénopode, chénopodiacée puis amarantacée, qui est un mot un peu bizarre, mais au final, il y a l'épinard et la betterave.
C'était ma famille coup de cœur.
Ah ouais, moi aussi, je les aime, mais c'est ça. Donc, tu sais, c'est des légumes un peu... C'est pas, il n'y a pas que des légumes feuilles dans cette famille-là. Il n'y a pas que... En les mettant par famille botanique comme ça, tu as des feuilles, tu as des racines, tu sais, qui vont s'agencer ensemble, mais qui vont faire justement que si tu, en ce moment, je promouvois beaucoup l'amarante ou justement le chou gras, tu sais pas du tout ce que c'est l'amarante puis le chou gras, mais tu vas voir dans la famille puis tu vois qu'il y a aussi l'épinard. Alors tu dis, ah, bon, ben l'épinard, ça, je sais c'est quoi, je l'ai cuisiné en potage, en salade, en smoothie. Donc, l'amarante et le chou gras pourraient être cuisinés de cette manière-là aussi. La betterave faisant partie de cette famille-là, ben je pourrais très bien me faire une belle salade d'épinard et betterave avec une petite vinaigrette, huile, vinaigre, puis le tour est joué. Fait qu'on a des agencements gagnants parce qu'on fonctionne par famille botanique. C'est comme la nature est bien faite, elle les a mis ensemble. Elle les a comme agencées pour nous. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que souvent, ben, tu peux substituer justement en disant s'il y a des grandes familles comme les brassicacées, qui sont aussi les plus connues sous le nom de crucifères, ben la famille est tellement grande, je pense qu'il y a une trentaine ou facilement 30 ou 40 légumes dans cette famille-là, mais il y a des brassicacées qui vont être plus estival, il y a des brassicacées qui vont être plus automnales, puis il y a des brassicacées qui vont être plus de conservation. Puis c'est pareil, on peut les... tu sais, si tu fais une recette en été, ben tu vas utiliser telle brassicacée versus si tu la fais en hiver, ça va être telle autre brassicacée. Mais en tout cas, en regroupant, je voulais vraiment simplifier puis que les gens fassent des associations simples puis fassent des liens comme ça en se disant, bon, ben au lieu d'avoir à traiter 40 légumes parce que j'ai 40 brassicacées, je vais en traiter comme un ou deux. Puis fait que je peux refaire ma recette de brocoli avec le chou rave, même si je le connais pas. Puis parce que j'ai des repères gustatifs, j'ai des repères de recettes, j'ai des repères de saveurs. Fait que c'est principalement pour ça que j'ai divisé le livre en 12 familles botaniques.
C'est vraiment une bonne idée, cette idée de substitution de... Si on n'a pas de chou rave, c'est pas grave, on peut mettre ça à la place, puis c'est correct, ça va être bon quand même. Une des choses que j'ai remarqué dans ton livre, c'est que tu parles beaucoup d'anti-gaspillage, donc à peu près tout qu'on peut manger, des légumes. Oui. Ça, j'aimerais ça que tu nous en parles, que tu démystifies, parce que j'ai l'impression que souvent encore, on jette des parties qu'on pourrait consommer autrement, mais qu'on pourrait... et qui sont remplis de vitamines et de minéraux qui pourraient nous faire du bien.
Oui, c'est ça. En fait, c'est pas non plus de culpabiliser si on composte certaines parties, parce que bon, tu sais, on va souvent nous dire cuisiner les fans de carottes, par exemple. Tu sais, c'est sûr, quand on est en été, puis qu'on a les jeunes petites carottes croquantes avec un feuillage magnifique, tu sais, vert vivifiant, on se dit bon ben ça je peux pas le composter, c'est trop beau, tu sais, il faut même notre corps est attiré vers les fans de carottes, ça fait qu'on les fait sauter, on les ajoute à un jus mais c'est sûr que avec le temps, la saison avance, les verdures deviennent très abondantes, fait que le feuillage de carottes, tu sais, c'est comme en même temps, il faut user de notre discernement aussi. C'est correct aussi de redonner à la terre nos fans de carottes, puis il faut pas se sentir coupable. Des fois, j'ai l'impression que les gens culpabilisent beaucoup, tu sais. Je sais pas s'il y a des gens au marché qui les donnent à leurs lapins. En tout cas, tu sais, mais c'est ça. Il y a d'autres moyens de, mais mon point, c'est ça. C'est qu'effectivement, oui, il faut comme voir le légume quand on en a envie. Puis quand on est, des fois c'est peut-être même de se faire des réserves de bouts de légumes qu'on va peut-être moins avoir envie maintenant, mais que plus tard on va les apprécier. Tu sais, c'est un classique, le pied de brocoli, tu sais, qu'on va souvent mettre au compost. Ben peut-être que le pied de brocoli peut être congelé pour un futur bouillon ou juste après, ou pelé et congelé pour après ça on fait un potage de brocoli, mais ça peut être un potage de pied de brocoli. La saveur du brocoli est là, la couleur est juste un peu plus pâle. Mais la saveur va être là, puis Souvent, ben c'est ça, tu sais, dans plusieurs cuisines, on va utiliser le légume au complet. La coriandre, par exemple, on va utiliser la racine de la coriandre quand vous avez des maraîchers qui arrachent complètement la coriandre plutôt que de la couper. On va avoir une belle racine qu'on peut émincer, qu'on peut faire sauter parce que malheureusement, ou en tout cas, tu sais, le feuillage de coriandre étant très fragile, on peut pas nécessairement le cuire, mais la racine par contre est plus coriace, donc on peut la faire sauter, on peut l'intégrer à un bouillon, fait qu'on aurait une belle saveur de coriandre, puis on peut décorer après avec le feuillage et les tiges, mais c'est des habitudes à prendre, tu sais, de mettre dans sa salade le feuillage de céleri aussi plutôt que juste les branches de céleri. Il y a vraiment des changements parce que aussi les légumes, je trouve, moi, en étant près du jardin, je me suis rendu compte que à l'épicerie, par exemple, il y a plein de parties de légumes qui sont coupées, que le client n'a pas le choix de pas les avoir. Alors, par exemple, les feuillages de brocoli, les feuilles de brocoli, c'est incroyablement bon. C'est meilleur que le kale, c'est meilleur que le color. C'est tendre, on les fait vapeur, puis après on peut enrober des choses dedans, on peut les mettre dans des rouleaux de printemps. On peut juste la faire sauter, mais en tout cas, je trouve que c'est incroyablement savoureux, cette feuille-là, puis elle se travaille très, très bien. Puis elle est pas, je veux dire, on a toujours un pied de brocoli, pas de feuille. Puis c'est triste parce que si c'était, bon, il y aurait moins de pertes, tu sais, pour les agriculteurs, ce serait moins de troubles, tu coupes, puis tu vends avec la totale. Mais non, on décide de nous les enlever, tu sais, les feuilles de chou-fleur, c'est pareil. Le céleri rave, on enlève les feuilles, mais si on voyait comment c'est beau, t'as la racine de céleri rave, puis t'as des longues branches comme le céleri branche avec le beau feuillage en haut, puis tout ça est chopé, puis on nous donne juste la racine, la petite boule, petit monstre de céleri rave. Fait que c'est ça aussi, il y a de l'éducation à faire, tu sais, parce que d'abord on en aurait beaucoup plus pour notre argent si le légume était vendu au complet, puis on pourrait diversifier, parce que c'est le fun d'avoir dans un même légume, du feuillage puis de la racine. Puis c'est le cas de plein de choses. C'est par exemple les betteraves en saison, on va les avoir avec leur feuillage, mais même encore souvent on les enlève, tu sais, malheureusement. Puis ça, les feuilles de betterave, c'est comme de la bêta-carte. Fait que c'est intéressant parce que t'as vraiment, comme je disais tantôt, t'as deux légumes dans un, t'as une racine et un feuillage. Fait que ça te permet de rendre ton légume plus productif. C'est que ouais, c'est ça, j'ai beaucoup à cœur mais c'est ça, c'est juste d'être conscient, mais d'abord pour être conscient, il y a un peu d'éducation à faire, même au niveau, tu sais, plus en haut de la chaîne, là, les agriculteurs devraient, tu sais, sensibiliser un peu plus les acheteurs, ou en tout cas les consommateurs. Je sais pas si c'est leur job à eux, mais en tout cas, il devrait y avoir une quelconque éducation de fait quelque part pour que les gens sachent, tu sais, que justement, un céleri rave, ça vient avec des branches puis des feuilles, puis d'un brocoli, ça pourrait venir avec des feuilles aussi, puis de laisser les gens décider là, plutôt que de décider pour eux.
Parmi les surprises que j'ai découvertes, il y a le poireau. Moi, je savais pas qu'on pouvait manger les racines de poireau. Tu suggères même une recette de tempura de racines de poireau. On peut faire du lait de poireau. On peut faire blanchir et congeler aussi les poireaux pour l'hiver. Ouais. C'est merveilleux de découvrir ces choses.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a, ça ressort beaucoup dans le livre aussi, toutes ces petites astuces-là, justement. J'ai l'impression que c'est une cuisine qui est très maraîchère, justement, parce que quand, encore une fois, parce qu'on est tellement proche de la terre, puis on les voit, nos légumes, on les voit pousser, on met tellement d'amour, d'énergie, puis de temps à le faire qu'il y a comme un... Ben encore, tu sais, je parlais d'honorer où il y a quelque chose de sacré. C'est quand tu vois tout ce que ça demande, tous les gens qui travaillent autour de ça. C'est surtout quand t'es dans le bio, tu sais, on met rien. C'est le travail des fois est multiplié par je sais pas combien. Fait que tout ça fait en sorte que ben on en prend soin. Tu sais, après quand on récolte, ben c'est ça. Même le toupette de poireau, il devient oh wow, tu sais, je peux faire de quoi avec ça. Ou en tout cas ton cerveau il se met à en mode créativité, puis là, il dit, OK, ça, je peux pas gaspiller ça, c'est trop beau, faut que je fasse quelque chose avec. Puis, tu sais, je goûte, là, je teste, comme, OK, mais ça goûte l'oignon, ça goûte le poireau. Fait que, tu sais, je fais pareil avec les oignons verts. Tu sais, les oignons verts, c'est pareil, ils peuvent avoir un très, très long toupette, là, des petites racines qui dépassent, mais souvent, elles sont coupées. Fait qu'on on le sait même pas, puis on les voit même pas. Fait que c'est tous ces titres, ces témoignages que moi je suis témoin de tout ça, fait que j'avais juste envie de de le partager avec les gens, puis justement de dire, ben si jamais vous avez accès ou ben sachant que ça existe, demandez-le à vos maraîchers. Pour le maraîcher, c'est une étape de moins en fait que de ne pas couper le toupette par exemple de ses poireaux ou de ses oignons verts ou de ne pas couper les feuilles de ses brocolis encore ou de fait que c'est de le demander au maraîcher de, en sachant que c'est possible de les avoir ben de quand vous allez dans les petits marchés éphémères et saisonniers ça leur ferait plaisir tu sais c'est souvent que le maraîcher sait que bon hors saison les gens s'approvisionne en épicerie, puis qu'en épicerie, il y a un standard de qualité, puis les gens sont habitués de voir des céleris pas de feuilles, sont habitués de voir des carottes pas de fan, sont habitués de... Ils font un peu pareil, mais je pense que nous, on a prouvé, en tout cas, dans les marchés qu'on a fait, avec les gens apprécient tellement, tu sais, une fois qu'il faut... C'est juste d'informer, en fait.
Est-ce qu'on peut manger toutes les parties d'à peu près tous les légumes? Parce que quand je dis ça, moi, j'ai l'impression que déjà que j'étais informée, mais il y avait... plein de choses que je savais pas. Est-ce qu'il y a des contre-indications des parties de légumes qui se mangent?
Je pense pas. Je t'avoue que j'ai pas... Non, je pense qu'à peu près tout va se manger ou à la limite, c'est que tout peut s'infuser. Tu sais, c'est comme... y a, par exemple, je pense à des fois, c'est au niveau... On veut le sentir, tu sais, des branches de thym. Tu mets la branche, mais tu vas l'effeuiller si tu veux manger la feuille. La branche est tellement coriace que c'est souvent les herbes qui se conservent longtemps, comme la sauge ou l'origan, par exemple. Tu vas effeuiller, mais la branche comme telle est assez coriace. Fait qu'il y a des choses comme ça, mais même si tu la manges, tu vas pas mourir. C'est juste désagréable en bouche. Mais après, ces branches-là peuvent s'infuser dans un bouillon pour le parfumer. Je pense que tout, ou à peu près tout, c'est sûr, je ferais peut-être plus attention avec certaines racines de légumes quand on va déterrer la racine. Mais encore là, faut faire des tests. T'sais, moi, je suis très, j'explore, puis je teste, mais je pense que si je regarde le livre, on peut pas s'intoxiquer avec grand-chose puisque le légume est comestible. Alors, c'est la totalité du légume... Selon moi, c'est comme pas c'est mangeable jusqu'à un certain stade. Puis, oups, en haut, ça se mange pas, ou en bas, ça se mange pas. Je pense que tout est comestible, ouais.
On va se poser quelques questions philosophiques avant d'en revenir au livre. En 2021, pandémie oblige, je pense que les gens ont été de plus en plus portés vers le manger local puis reconnaître l'importance d'avoir de la nourriture de proximité, que ça vienne pas de l'autre bout du monde. Est-ce que t'as remarqué dans la dernière année, justement à cause de la pandémie, plus d'intérêt?
Ah oui, incroyablement plus d'intérêt. C'est multiplié par 1000. C'est, tu sais, des statistiques ou je sais pas comment appeler ça, mais nous, comme maraîchers, on a toujours un peu de misère avec nos inscriptions. Les gens vont, oui, ils savent qu'il faut qu'ils se prennent un panier, puis le plus tôt, le mieux, mais ça brette. C'est toujours un peu long. Puis on est en juin, puis juillet, puis ils se sont pas encore inscrits. Puis là, bon, ce processus-là. L'année passée, en mars, puis normalement, on a 150, 175 partenaires, puis c'est beau. L'année passée, au mois de mars, on avait 300 partenaires. Oui, oui.
Et wow!
Puis on n'est pas les seuls. Je veux dire, c'était assez généralisé dans le milieu. Les gens se sont réveillés, là, parce que mars, c'était le début de la pandémie, on dirait, puis les gens se sont mis à se dire, OK, ça fait... Je pense que tous ceux qui pensaient depuis longtemps que c'était un concept, mais qu'éventuellement, ils allaient mettre en pratique, là, ça s'est mis en pratique. Alors, puis je pense que l'abonnement à un panier bio, c'est ce qui est de plus concret là, pour la majorité des gens. OK, on va s'inscrire, puis on va s'assurer d'avoir des légumes locaux pendant X nombre de semaines cette année. Fait qu'on a eu beaucoup de nouveaux partenaires, justement, de gens qui étaient, ben, tu sais, qui avaient pas l'habitude. Puis c'est pour ça que le livre est sorti vraiment pile poil parce que c'est un outil qui, autant même pour ceux qui étaient habitués à aux légumes de saison, que ceux qui l'étaient pas, c'était un outil, je pense que, tu sais, 90% de nos partenaires l'ont pris, le livre, là, parce que c'était nécessaire. On sent, comme je l'ai dit au début, il y a un besoin. Oui, on veut manger local, mais un peu dites-moi comment, ou en tout cas, soutenez-moi, parce que c'est trop, là, d'un coup. Fait que oui, la pandémie, la pandémie a vraiment, il y a eu un petit flag, là, qui a levé pour dire, OK, je pense que là, je dois absolument soutenir si je veux manger, parce qu'on savait pas trop ce qui allait se passer aussi. Si je veux manger, ben faut que j'encourage mon économie locale, faut que j'encourage une alimentation de proximité. Fait que toutes ces thématiques-là ont commencé à prendre sens.
Tu parlais là de des gens abonnés au panier bio avec des légumes de saison. Mais ton objectif à travers le livre aussi, puis quand on lit, c'est de manger local à l'année longue. Est-ce que c'est réaliste au Québec maintenant de manger local, mettons 80 ou 90% à l'année longue? Oui. Donnons-nous une marge de 10 ou 20%.
Mais dans le fond, le livre, ce qu'il veut, c'est de donner le plus de conseils possibles ou le plus de solutions possibles ou d'avenues possibles selon ce que chacun est capable de faire aussi. Encore, c'est un peu comme le gaspillage. Faut pas paniquer, faut pas culpabiliser parce qu'on achète de la vanille, qu'on boit du café, qu'on mange du cacao, ou parce que justement, je mange des avocats puis des ananas. C'est correct. C'est pas, ça fait partie d'eux. On vit dans un monde, tu sais, c'est ouvert, c'est la mondialisation, c'est là. Puis on peut aider aussi à travers ça, tu sais, fait que je dis pas que c'est complètement mauvais, mais je pense qu'on a des efforts à faire pour se rapprocher de notre terroir, de notre terre, de favoriser les gens autour de nous qui cultivent, tu sais, de les encourager puis de les soutenir avant d'aller vers l'extérieur. Fait que c'est plus ça, le livre. C'est vraiment manger local autant que c'est possible, tu sais, puis chaque petite amélioration, chaque légume, tu sais, s'il y a des gens qui mangent local vraiment juste dans la saison où ils ont leur panier ou dans la saison où il y a des marchés, ben c'est bien correct. Mais tu sais, si on est capable de se dire, ah, cette année, même décembre puis janvier, tu sais, j'ai été capable de quasiment rien acheter puis de manger des légumes que j'avais transformés ou de, tu sais, d'aller dans mes petites réserves, ben c'est déjà extraordinaire. Fait que je pense que c'est ça. C'est très personnel. C'est juste d'avoir cette petite penser là, tu sais, de me dire, OK, qu'est-ce que je suis capable de faire pour manger un peu plus local, pour encourager ce qui pousse autour de chez nous. Puis c'est ça, donc le livre, ben, soutient. Encore une fois, par famille, on essaie comme, bon, la famille des solanacées. Je trouve que c'est une famille qui est... Les solanacées, c'est les tomates, les aubergines, les poivrons, les piments forts. Donc, c'est une famille qu'on affectionne particulièrement au Québec. Tu sais, étant un pays nordique, je pense que à partir du mois de juin, on se fait demander « Avez-vous des tomates? » Tu sais, les gens, ils attendent les tomates avec impatience. C'est les vraies tomates qui goûtent quelque chose. Fait que c'est comme c'est un légume, évidemment, mais même si elles sont très bonnes en saison, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont quand même acheter des tomates hors saison, tu sais, qui ont poussé en serre puis qui sont souvent beaucoup moins savoureuses que les tomates d'été ou qui ont poussé sur le plan au soleil. Fait que donc, tu sais, dans le livre, ben, je propose justement, tu sais, plutôt que d'acheter des tomates, même si c'est poussé au Québec, mais tu sais, tomates de serre ou, tu sais, même ou des tomates importées, ben, congeler vos tomates. Puis, tu sais, souvent, nos grands-mères faisaient beaucoup de canage, puis tu sais, en été, travaillaient beaucoup, transformaient beaucoup, puis c'était laborieux. Fait qu'en plus d'avoir à travailler les récoltes fraîches, ils devaient aussi faire des réserves, mais de plats quasiment cuisinés, prêts à manger pour l'hiver. Moi, je suis pas tellement pour ça, entre guillemets. Pas que je suis pas pour ça, mais j'ai pas le temps de faire ça. Fait que, puis je pense que si moi j'ai pas le temps, il y a bien du monde qui n'a pas le temps de le faire aussi. Fait que c'est plus de savoir que la tomate, t'as pas besoin de la transformer cet été, là. T'as juste, t'apprends entière avec sa pelure, t'en mets dans un Ziploc, t'en mets au congélo, puis, en hiver, tu la passes en toute l'eau chaude, la pelure va se décoller toute seule, tu la chop-chop congelée, puis tu la cuis, puis quand de la cuire congelée, je sais pas chimiquement qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme si tu avais une sauce tomate que tu avais fait au mois d'août, là. C'est délicieux. Fait que, puis c'est au mois d'août, là, pas au mois d'août, mais c'est l'hiver que là, ça te tente de faire des petits plats mijotés, puis t'as le temps de laisser mijoter ta sauce l'après-midi, puis fait pas 40 degrés dehors, puis il fait frais, puis c'est correct, tu vas cuisiner ta sauce tomate, ça va réchauffer ta maison, ça va sentir bon. C'est juste comme plus adapté aussi. Fait que, en fait, le livre, c'est ça. C'est si ça te tente, si tu as l'espace, parce qu'évidemment, moi, je suggère beaucoup de congeler plein d'affaires, puis je suis consciente aussi que les gens peuvent être limités en espace. Ça, c'est pas toujours possible de congeler, mais d'en faire un peu. C'est de te faire des réserves, puis de savoir qu'est-ce que tu peux mettre en réserve, puis de quelle façon. Parce que justement, des tomates congelées entières, Oui, certaines personnes le savent, mais plein de gens ne savent pas qu'on peut faire ça. Congeler des poivrons qui ont été épépinés aussi, on peut très bien congeler ça. Évidemment, pas pour les manger en crudité, mais pour les préparer farcis ou pour les mettre dans une sauce ou pour... fait que c'est ça. T'sais, c'est de partir du principe que l'été, on mange frais, puis l'hiver, on va un peu plus cuisiner, travailler. L'été, on cuisine avec des herbes. L'hiver, on va plus utiliser nos épices qui viennent de l'extérieur, justement, ou les épices qu'on a, les herbes qu'on aura fait sécher. Fait que c'est ça. C'est des principes de base qui peuvent aider à manger local un petit peu plus longtemps dans l'année.
Tu as donné l'exemple des tomates, puis je confirme effectivement que c'est facile à faire, congeler des tomates dans des ziplocs et que ça goûte délicieux une fois l'hiver venu. Est-ce que tu as d'autres exemples de choses faciles à faire comme ça? Par exemple, des carottes, si on a une chambre froide, ou des pommes, on va rester dans les légumes. Est-ce que je peux acheter, je sais pas moi, 25 kilos de carottes puis les laisser dans ma chambre froide ou est-ce que ça va... dépérir tout ça?
Tu peux le faire, mais moi, ce que je dis un peu dans le livre, c'est que toutes nos racines, c'est tous nos légumes de conservation, les patates, les navets, les choux, etc., ils sont quand même disponibles en épicerie. La saveur est pas mieux ou est pas pire si tu les as achetés comme à l'automne puis tu les as conservés toi-même versus si tu les achètes au fur et à mesure que tu en as besoin à l'épicerie. Fait que, dans des épiceries où ça roule, où ils ont un souci d'acheter des légumes souvent de plus petits maraîchers, etc. Ces légumes-là, je vois pas pourquoi on l'auderait. Je sais pas ce que on se ferait des grandes réserves de tout ça puisque l'épicerie peut faire la réserve pour nous. Moi, je suis plus justement d'essayer de se faire des réserves de ce qu'on ne trouvera pas en épicerie l'hiver. Tu sais, comme justement, je disais tantôt, poivrons, tomates, etc. Le poireau, souvent, tu sais, il va être disponible en hiver. Il va peut-être être importé, puis justement, il est pas super beau, puis il est super cher. Quand en été, tu vas acheter 6 poireaux pour 5 ou 6 piastres, là. Fait que c'est ça, quand je disais tu congèles ton poireau, tu vas le trancher, il est prêt à être utilisé, là, t'en prends une poignée pour commencer une cuisson, ou tu te fais un potage l'hiver, tu sais, c'est, fait que ça vaut la peine. Fait qu'il n'y a pas tant de choses que ça que je dirais qu'il est absolument nécessaire de se faire des réserves, parce qu'on a quand même, tu sais, comme je disais, les épiceries ou les maraîchers, il y a des paniers bio, même l'hiver, tu sais, qui vont nous permettre de s'approvisionner en légumes locaux, justement tout l'hiver, puis c'est eux qui servent de chambre froide. Donc, tu sais, je dirais solanacée, c'est justement certains, le poireau, certains feuillages aussi, parce que les feuillages, c'est le fun des avoir frais. Ça, c'est pareil, en épicerie, on peut être capable des avoir frais. Il y a des maraîchers qui sont capables de faire pousser quelques verdures dans des serres froides l'hiver. Tu sais, comme les épinards sont délicieux l'hiver, ils sont épais, c'est comme s'il y avait un poêle d'hiver. Ils sont vraiment croustillants et... c'est vraiment un beau feuillage. Fait que souvent, si on est capable d'en avoir l'hiver frais, mais il y a des feuillages, je sais pas, la bétacarde, qu'est-ce qu'il y aurait comme... ouais, la bétacarde, moi, j'aime beaucoup, comme au début, le chou gras, l'amarante. Donc, ces feuillages-là, on peut juste les blanchir, puis les blanchir, les essorer, les mettre en sac. Puis après ça, c'est pareil, on les rajoute dans notre cuisson, en fin de cuisson, dans notre plat. Fait qu'on a des belles verdures locales, savoureuses. Fait que c'est des petites astuces comme ça que j'intégrerais, mais nos courges, tu sais, nos légumes de conservation, je ne remplirais pas ma maison avec ces réserves-là, puisqu'ils sont quand même de plus en plus accessibles. Ouais.
T'as raison. Dans ton livre, on sent que t'aimes beaucoup les fines herbes. D'ailleurs, tu disais quelque part, les fines herbes, c'est la vie dans une assiette, c'est la personnalité d'un plat. Celles-là, est-ce qu'on peut les garder tout le temps? Comment est-ce qu'on fait pour en avoir le plus longtemps possible dans la vie?
Comment est-ce qu'on fait? Ben, justement, moi, je vais encore à la fin de la saison, je vais souvent faire des pestos. Donc, c'est des pâtes d'herbes mélangées. C'est juste de l'huile puis le feuillage, un peu d'ail si on veut, mais vraiment, on peut le faire très, très simple, juste huile et herbes, un petit peu de sel. Puis je trouve que c'est une belle façon, la coriandre, même la nette, la ciboulette. Je fais du pesto de ciboulette, évidemment le basilic, mais souvent, on fait basilic puis on laisse aller les autres. Mais toutes les herbes peuvent vraiment se travailler en pesto. Après, c'est quand on les a fraîches, je trouve que la meilleure manière en saison là, de les cuisiner, c'est de se faire, je dis dans le livre, des vinaigrettes ou des sauces ou des... Donc, on prend la botte au complet, là, parce que en saison, une chose que je dis aussi, c'est de travailler nos herbes comme des légumes. Parce que souvent, on était habitué à parfumer, à décorer. Tu sais, on va mettre un petit brin de coriandre sur notre plat. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, c'est de la déco, les fines herbes. C'est pas de l'énergie, tu sais. Puis moi, je dis, non, attends, quand c'est l'abondance des fines herbes, tu sais, du persil, ben il y a le taboulé, mais je veux dire, moi, je me fais des pâtes au persil, il y a plus de persil que de pâtes, mais c'est tellement bon, tu sais, avec un peu de citron. Fait que c'est ça, c'est de finalement ton feuillage. Moi, je le vois comme un feuillage, tu sais, tu peux vraiment le cuisiner comme tu cuisinerais un légume, par exemple. Puis des fois, bon, c'est ça, si les gens sont un peu frileux à l'idée de faire un plat de coriandre, ben mettez-le dans le blender avec de l'huile, du vinaigre, puis un peu de sel, puis ça vous fait une belle vinaigrette, ou ça peut être dans du yogourt avec une sauce crémeuse. Puis là, la vinaigrette va se conserver une grosse semaine au frigo, puis vous avez quelque chose pour aromatiser, qui est facile. Fait que c'est souvent comme ça. Sinon, on peut déshydrater évidemment certaines herbes qui sont plus d'hiver, comme le thym, la sauge, origan, tu sais, tout ça se déshydrate ou se fait juste sécher comme ça facilement pour les conserver en hiver.
Il y a une belle portion nostalgique dans ton livre aussi où tu parles des odeurs de nos enfances, ce qui nous rappelle quoi. C'est qu'il y a quelque chose qui vient nous chercher profondément quand on cuisine comme ça, quand on va chercher ce qui est à proximité de chez nous.
Ah oui, c'est comme un grand oui. Il y a comme un... C'est drôle parce que j'ai commencé à peindre, ou en tout cas, tu sais, j'aime, je avec mes enfants aussi, ils ont fait de la peinture. Puis tu sais, quand tu peins, puis t'es vraiment connecté là, avec ton cœur, tu sais, il y a comme, tu mets du vert sur ta feuille, puis ça fait oui. Tu mets du rouge, tu sais, tu y vas avec vers quoi t'es attiré quand tu fais ta peinture, puis il y a comme un grand élan de oui, tu sais, tu t'en vas vers les couleurs, puis tout ça. Fait que le jardin, c'est pareil. Je me suis rendu compte que je cuisinais toujours comme ça. Tu sais, j'allais vers le oui. Tu sais, qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Mais encore, parce que ça fait pas ça au IGA, là. Tu sais, tu peux pas, en tout cas, je l'ai pas trouvé, moi, cette connexion. Je n'ai rien contre IGA, là, mais je fais juste dire que quand tu rentres dans une épicerie sous les néons, tout ça, t'as pas cette, c'est encore du connexion, mais en tout cas, tu sais, t'as pas cette sensation, t'as pas tes sens qui se réveillent. Tandis que quand tu vas dehors dans le jardin, ben, oui, tu sais, ça devient très, très sensuel, ça devient très émotif. Comme je disais tantôt, les sens se réveillent. Il y a, ouais, c'est tellement beau ce processus-là, tu sais, qui commence. Puis que c'est ça, cuisiner, ça commence dans le jardin, ça commence avec tout ça. Puis après, c'est facile, je veux dire, tu prends tout ce qui t'a attiré, tu l'amènes dans ta cuisine, puis le plat, il était fait au champ, en fait. Tu sais, tout ça va s'agencer parce que ça va nécessairement bien ensemble. Tu sais, la nature est tellement bien faite. Je dis souvent, je pense que je l'ai dit dans le livre, tu sais, que le plus beau guide alimentaire, c'est le jardin, tu sais. Si on était plus à l'écoute, ça nous guide tellement. On a juste à observer ce qui est prêt. Puis est-ce que je peux agencer justement la betterave avec l'épinard? Ben oui, tu sais, sont prêtes en même temps, sont à point en même temps. Pourquoi pas? Tu sais, tout va bien ensemble quand c'est prêt à point. Là.
C'est un délice de t'écouter. Tu parles des légumes, de manger local, puis à quel point ça nourrit le cœur, ça nourrit les sens, ça nourrit tout. Et en plus, ça nourrit le cœur aussi parce qu'on a de plus en plus d'informations qui disent que les légumes, ils sont remplis de vitamines et de minéraux, sont à leur apogée quand on les cueille, mais quand ça fait, je sais pas, une semaine, deux semaines, six mois que des légumes voyagent, ces légumes-là perdent leur valeur nutritive aussi. Donc, non seulement on nourrit nos sens, mais on nourrit notre cœur avec toute cette biodisponibilité. Ah oui.
C'est souvent en saison, tu sais, en tant que maraîcher, on travaille fort. T'sais, c'est aussi une saison où ça bouge, c'est l'été, c'est l'énergie, c'est là qu'on travaille beaucoup. Mais en même temps, quand on se nourrit de ce que la terre nous donne, on se nourrit, nous, évidemment, de nos récoltes, on se rend compte comment on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie, entre guillemets. T'sais, si on n'a jamais calculé qu'est-ce qu'on mangeait, là, mais je veux dire, c'est comme si c'est tellement nourrissant, c'est tellement nutritif. Tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose qui est fraîchement cueilli. Et puis dans des sols aussi, tu sais, on n'a pas parlé de sol, là, puis j'en parle un petit peu dans le livre, mais avant même qu'il y ait des légumes, il y a un sol dans lequel ils poussent, puis ce sol-là est vraiment très précieux. Beaucoup de maraîchers locaux ont développé ou développent maintenant l'habitude de régénérer leur sol et de redonner au sol. La terre est généreuse, elle nous donne plein de choses. Mais on peut pas juste prendre. Éventuellement, il faut redonner au sol. Puis souvent, une grande partie du temps du travail maraîcher qui est fait à redonner au sol. Fait que c'est pour ça aussi que c'est aussi nourrissant. Notre terre à nous, par exemple, elle est argileuse, a beaucoup de roches, beaucoup de minéraux, ce qui fait qu'on le goûte éventuellement, tu sais, cette roche-là fait que des fois la carotte est croche, mais la carotte est savoureuse, puis elle, tu sais, on sent qu'elle a poussé, qu'elle a travaillé pour pousser assez, tu sais, puis justement le fait que c'est bio, on protège pas les légumes doivent se protéger eux-mêmes contre les agresseurs, tu sais, tu sens que le légume développe quelque chose, tu sais, de pour se protéger, on dirait que dans son organisme, il y a quelque chose aussi de fort, tu sais, de puissant. Après, c'est pas scientifique là, mais c'est juste un feeling là, qu'on voit que les légumes ont tellement poussé dans un sol riche que nécessairement on le sent, on le goûte. Puis, comme je disais au début, on va manger, mais on dirait qu'on est rassasié avec peu. On va pas manger. C'est comme si puis aussi notre sentiment de satiété est reconnu rapidement. Tu sais, c'est ça, on a, je trouve, beaucoup moins besoin de nourriture quand on mange en saison que quand on va dire, on dirait que quand on mange du junk, ben on sait pas quand s'arrêter, on n'est jamais rassasié, on n'a pas comme cette sensation d'être nourri. Fait que c'est tout le contraire là, quand on est proche de la terre puis qu'on mange en saison.
Oui, tout à fait le contraire. Dans la nourriture raffinée puis très processée, les gens qui la font, cette nourriture-là, la font justement pour qu'on perde nos signaux de satiété. Donc, on sait pas, on est plus capable de reconnaître quand est-ce qu'on a assez mangé. C'est intéressant que la nature, elle, ouais, les donne, ces signaux-là. Dans ton livre, tu donnes beaucoup de recettes. J'en ai essayé. À date, mon coup de cœur, c'est les rouleaux de printemps aux champignons que j'ai trouvé absolument délicieux. Donc, je voulais informer les gens aussi, ceux qui nous écoutent, que tu nous dis concrètement quoi faire avec ces légumes-là. C'est bourré de recettes absolument délicieuses, oui, et de conseils.
J'essaie de... Évidemment, j'ai pas le choix. C'est sûr que ça m'a demandé un effort d'écrire des recettes parce que j'ai pas l'habitude de cuisiner avec des quantités précises et tout. Puis je pense que... Ben, je sais pas, tu peux me dire, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, mais j'ai essayé de pas trop donner de quantité. Tu sais, c'est assez ouvert. Je guide, mais il y a quand même toujours un peu une ouverture. À moins, je sais pas, quand je donne une recette, par exemple, de pâte à pizza, là, c'est sûr que des fois, il y a un petit peu plus d'encadrement. Mais je veux que les gens aussi développent cet instinct-là, et d'agencer des choses ensemble, qu'on peut pas faire d'erreurs. Comme je disais, tu sais, la nature nous donne plein de choses, puis ça va nécessairement bien ensemble. Puis je sais pas pourquoi on a peur que ça goûte pas bon, que ça soit pas bon, ou qu'on se trompe. Ou ça peut arriver quand on travaille avec des aliments processés ou quand on travaille avec des choses qui sont comme synthétiques, ou je sais pas. Mais à partir du moment où on cuisine avec du vrai, on peut pas se tromper. Tout est bon. Tu sais, tu vas peut-être mettre trop de coriandre. Oups, finalement la coriandre, je me suis rendu compte que j'aime pas ça. Mais j'en mettrai plus. Mais le plat en soi, on peut pas se tromper.
Je suis complètement d'accord avec toi. C'est comme ça que je cuisine aussi. J'ai beaucoup de misère à suivre une recette. Parfois, ça exaspère mon fils. Maman, tu suis pas la recette. Ben, je dis, la recette, c'est un guide, là. C'est des idées de ce qu'on peut mettre ensemble. Mais le reste, on cuisine d'instinct.
Je suis consciente qu'il y a beaucoup de gens que ça peut freiner, justement, parce que, n'ayant pas été habitué de cuisiner comme ça, d'une manière un petit peu plus instinctive, parce que tout ça se développe encore en étant proche du champ ou en étant proche des aliments où est-ce qu'ils poussent ou en étant dans un kiosque de marché très, très diversifié. À force d'y aller, comme je disais, nos repères se réveillent, nos petits radars, nos petits sensors se réveillent, puis là, tu sais, tranquillement, on est capable de développer notre créativité, on est capable de savoir avec ça, les idées vont naître d'elles-mêmes, mais ça se développe. Puis justement, tant que ça, c'est pas développé, ben c'est là qu'on a vraiment besoin d'un soutien de recettes. Mais c'est ça, on n'est pas en pâtisserie, on n'est pas... Il y a des domaines où ça demande la précision, mais je veux dire, faire une salade, excuse-moi, là, ça prend pas une recette. Une salade, n'importe quoi. Là, c'est, ça peut être vraiment... Mais là, quand on me donne une recette pour faire une salade, puis j'ai... OK, il me demande, je sais pas moi, il me demande tel feuillage, je l'ai pas, je ferai pas la salade. Ben non, attends, il y a tellement de feuillages, tu sais, c'est ça, les. Faut juste c'est ça, s'habituer à développer. Puis tu sais, je juge pas, là, c'est juste quelque chose qui m'attriste beaucoup, puis que j'aimerais que ça change, tu sais. J'aimerais vraiment que les gens deviennent plus sûrs d'eux, plus confiants, plus autonomes en cuisine. Puis encore, ben je pense que de se rapprocher de la terre, c'est le. En tout cas, ça peut aider beaucoup.
En tout cas, ton livre, c'est certain, remplit cette mission-là d'aider les gens, d'accompagner les gens, de savoir quoi faire avec tout ça. Je veux vraiment te remercier parce que le travail que tu fais, c'est vraiment un travail de base, un travail important, c'est un travail qui bénéficie à tout le monde. On a tous besoin de connaître, de savoir ces choses-là. Toi, tu es capable de les communiquer puis de les vulgariser à plein de monde. Fait que vraiment, vraiment un chapeau pour ton livre. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi ou qui veulent acheter ton livre, comment est-ce qu'on... Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Bien, il y a carrément une page, un site où les gens peuvent aller, qui est marievesavaria.ca. Puis le livre peut être commandé à partir de là. Sinon, bien, j'ai des belles collaborations avec les boutiques locaux qui ont le livre. Il y a Vrac et Bocaux qui ont le livre. Certains... Petit point ponctuel à Saint-Hilaire. En tout cas, tu sais, il y a des lieux comme ça d'approvisionnement qui soutiennent une alimentation locale avec qui j'ai fait des liens. Donc, sur le site, c'est aussi indiqué. Alors, les gens peuvent le commander ou aller directement dans des boutiques où le livre est disponible.
D'ailleurs, je vais mettre tous les liens sur le blog, donc vous pourrez cliquer dessus. Marie-Ève, un grand merci d'avoir partagé ta passion et tes connaissances. C'est vraiment inspirant. Ça donne envie de... Ça donne envie de prendre soin de soi.
Ah, ben merci beaucoup, Eugénie. Je suis vraiment contente d'avoir rempli cette mission.